Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bienvenue dans l'émission Drôle de Dame que vous écoutez toujours et encore sur Fréquence 7, la radio décalée, différente et pas pareille. Bonjour,
bonjour,
bonjour.
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 Voilà, nous sommes le mardi 1er avril et pour cette nouvelle émission, nous avons décidé d'orienter notre discussion autour des maltraitances, des violences chez les jeunes et les moins jeunes, et les plus jeunes, pardon, chez les enfants. L'actualité avec l'affaire de Betaram est hélas effroyable et du coup nous incite effectivement à parler de tout cela. Alors la question, une des questions essentielles qu'on peut se poser, c'est comment on a pu en arriver là, comment on peut penser avec un A les blessures, voire les traumas chez les jeunes victimes actuellement. Est-il possible même de penser toutes ces blessures ou sont-elles indélébiles à jamais? Comment faire, quel personnel, etc., etc. Alors pour échanger sur ces questions, nous accueillons aujourd'hui Nathalie, qui a été éducatrice spécialisée, maintenant artiste peintre engagée dans l'art social et solidaire, dont le nom d'artiste est Natimo. Elle puise son inspiration dans le mouvement street art et l'art africain. Alors, à partir de projets collaboratifs, elle rend l'art accessible à tous et renforce les liens communautaires, faisant de ses œuvres un outil d'inclusion et de solidarité. Merci à toi d'être venue, Nathalie.
Merci.
Mais avant de te laisser la parole, place à l'actualité. Alors, tout va bien, Claude, Vincent, Bayrou et ses fidèles ont décidé de lutter contre les inégalités et de s'occuper de la jeunesse pour lui redonner de l'espoir?
Alors ça, c'est dans un autre monde. Dans quelques brèves, le député de droite républicaine de la Loire, Antoine Vermorel-Marquez, va déposer une proposition de loi pour lutter contre la reconnaissance des arrêts de travail frauduleux en France. Maintenant, c'est le législateur qui va s'imposer aux médecins. Scandale des crèches. Le domicile d'Aurore Berger, début février, a été perquisitionné, celle-ci, sous le coup d'une enquête pour faux témoignage. Ses relations avec la responsable nationale des crèches privé pose problème. Source Canard Enchaîné, dans un rapport public le 6 mars, la Chambre régionale des comptes épingle les ministres Aurore Berger, Prisca Thévenot et Jean-Noël Barrot, faussement enregistrés comme présents à une formation payée par la région Île-de-France, 12 500 euros, partie en fumée. Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, s'exprime. Une année noire pour les finances publiques, c'est en ces termes que la Cour des comptes qualifie l'année 2023 dérive inédite, pardon, dérapage déficit, baisse des impôts sur les très riches et les grandes entreprises. Pourquoi le PS n'a pas voté la motion de censure? Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, parle de réarmer les esprits. Nous allons commencer par l'école. Pour sa gouverne, coût de l'effort de guerre, un fusil d'assaut coûte 1300 euros, un char d'assaut Leclerc, 6,5 millions d'euros. Cet argent manquera certainement au budget de l'éducation nationale.
C'est même certain.
Ouais. Le groupe, ça en ferait des stylos et des bouquins. Le groupe Bolloré, propriétaire de Vivendi, a volontairement et illégalement baissé son imposition. Il échappe au paiement d'une pénalité de 320 millions d'euros. C'est Bercy qui a passé l'éponge. Essayez de ne pas payer vos impôts. Vous verrez les résultats. Le 22 mars, dans de nombreuses villes de France, des citoyens ont défilé ensemble pour dénoncer le racisme et dire stop à l'extrême droite. Le fascisme, c'est la gangrène. On le combat ou on en meurt.
À Paris, on parle d'expulsion?
Oui, à 5h45 du matin, des jeunes mineurs isolés se sont réfugiés à la Gaîté Lyrique pour avoir un toit, malgré leur sortie volontaire de l'établissement. Pour éviter la confrontation avec la police, ils ont fait face à la violence policière et la répression. Des dizaines de blessés. Il y a quand même d'autres solutions pacifiques pour régler le problème. Il y a plus de mètres carrés de surface habitable inoccupée en France que de gens sans abri.
La santé en milieu scolaire.
Eh bien, il manque 15 000 infirmières scolaires en France. Il y a 7 800 infirmières pour 12 millions d'élèves.
La mortalité augmente chez les bébés ?
Oui, 2800 perdent la vie avant leur premier anniversaire. 4,1 décès pour 1000 naissances. La France est maintenant classée au 23e rang sur 27 en Europe.
Pour quelles raisons ?
Entre autres, la fermeture des petites maternités de proximité, la rigueur du budget Bayrou met en péril la vie des tout-petits. Le Parti Socialiste et le Rassemblement National ont refusé de voter la motion de censure qui nous aura ramené au budget 2024 moins dur.
Il manque des moyens pour protéger les enfants.
À l'Assemblée nationale, le député France Insoumise Antoine Léaumont déclare qu'à Roubaix, dans sa circonscription, les services d'aide sociale à l'enfance ont de plus en plus de mal à trouver un hébergement. Le syndicat Sud a dénoncé dans un communiqué de presse la situation illégale de 5 enfants entre 8 et 13 ans placés dans un hôtel miteux et dégradé. Cet hôtel maintenant a été fermé fin janvier 2025.
Quelques nouvelles des victimes de Betaram.
Au cours de la commission d'enquête sur Betaram et les établissements privés, quelques personnes se sont exprimées. D'anciens élèves, très âgés maintenant, des responsables d'associations, des avocats. Gilles nous dit, tout le monde savait, à Betaram c'était la terreur. Evelyne, 78 ans, témoigne, tant qu'on aura un souffle de vie, on continuera. Alain raconte, Pierre, tout jeune enfant de Betaram, fuit le viol qu'il a subi. Il fait 25 km à pied et rentre à la maison. Sa mère ne comprend pas. Elle rappelle l'école, le surveillant revient chercher le petit. Bernard, on attaque des prédateurs, c'est nous les victimes. Manque de courage des adultes, une maîtresse de CM2, pendant des mois, une sadique, officie pendant même des années, deux directeurs ont couvert ces violences. Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfants, déclare « Le rapport Sauvé a été remis à Emmanuel Macron en 2021. Rien n'a bougé. Le ministre de l'Éducation nationale était M. Blanquer et le garde des Sceaux, Dupond-Moretti. Qu'ont-ils fait de ce rapport ?
C'est quoi le rapport Sauvé ?
C'est un rapport qui a été fait par Jean-Marc Sauvé et qui a été remis le 5 octobre 2021. Il remet le rapport de sa commission sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église en France entre 1950 et 2020.
En Palestine, qu'est-ce qui se passe ?
Je ne parlerai pas de la politique mortifère de l'État criminel d'Israël. Bientôt, nous ferons les comptes. L'histoire jugera les gens, les citoyens du monde qui ont regardé ailleurs. À Gaza, les gens meurent. Les enfants, les mères, les pères. Je crois que l'actualité est assez foisonnante sur ce problème. Tous les samedis à Aubenas, nous nous réunissons à l'Agora à 11h pour partager cette douleur. Vincent, tu as écrit un poème pour les enfants de Gaza.
Le vent souffle sur des cendres et du sable, sur des ruines où vivaient des contes ineffables. Les murs qui chantaient des rires d'hier ne sont plus que poussière, silence et colère. Mars revient et la terre s'ouvre encore, comme une plaie que l'histoire ignore. Les bombes cognent, le ciel s'éteint. Sous les gravats, un cri s'éreinte. Un père cherche une main disparue. Une mère berce un nom qu'on ne rendra plus. Les enfants comptent les étoiles éteintes, dessinent des ailes sur des tombes peintes. Et le monde regarde, le monde écrit, des discours fades, des mots flétris. On parle de paix entre deux massacres, on signe des trêves sur du papier lacre. Mais Gaza saigne, Gaza brûle, et sous la cendre, la vie recule. Jusqu'à quand faudra-t-il hurler pour que l'écho vienne vous réveiller ?
Dors petit, dors, t'auras le temps plus tard de souffrir. T'auras le temps de te rendre compte plus tard des douleurs, des couleurs et des souvenirs. Dors petit, dors, parce que la soirée n'a que trop commencé à la table des grands. Les discussions s'emballent et les regards deviennent limite gênants. C'est assez bizarre et assez badant. Dors petit, dors, car quand tu dors tu es beau. On te sent serein, ça fait pas de mal à voir. Moi qui m'interroge un peu trop, qui m'emmêle dans mes émotions, qui a cette tendance à cacher les problèmes sous le manteau. Dors petit, dors et ne pense plus à rien, parce que tes moments tu dois pas te poser de questions. Ça viendra plus tard ça. Donc dors petit, dors et surtout n'oublie pas de rêver. Et quand tes yeux se ferment, je revois mes souvenirs. Tu me donnes l'énergie et le droit de sourire. Une lueur de soleil cachée dans les abysses. Y'a pas de question de place, pas de question de classe sociale, de mauvaise face, de journaux, tu es débordé. Rêve petit, rêve, Tu as l'immense privilège d'être aimé, pouvoir vivre intensément, c'est ça qui nous plaît. Admire notre bienveillance, écoute ce qu'on te dit, mais reste insouciant, c'est important, t'es encore tout petit. Tout frêle, tout fier, il te reste tout à faire, rien à refuser, t'as rien à perdre. Rêve petit, rêve, comme personne t'autorisera à le faire, comme toi tu l'auras imaginé, parce que sur ça, personne pourra te sauver, alors surtout, ne passe pas à côté. Rêve petit, rêve, parce que parfois tu sais, il suffira d'essayer, il suffira de persévérer, et dans tous les cas, il faudra oser.
Alors oui, on le voit, ces actualités ont quand même pour conséquence de bien montrer la déshumanisation des êtres humains en général, mais le petit enfant en particulier. Et c'est le moment de rappeler que pendant longtemps, justement, l'enfant a été considéré comme un objet, comme la propriété de ses parents, puisque il faut rappeler que le texte de la Charte européenne des droits de l'enfant a été adopté le 4 octobre 1979 seulement, charte dans laquelle justement un des principes généraux précise que l'enfant doit cesser d'être la propriété justement de ses parents.
Donc nous allons évoquer rapidement un document super important, la Charte européenne des droits de l'enfant. Vous savez ce papier qui dit qu'un enfant, c'est pas juste une version miniature d'un adulte qu'on peut trimballer partout sans mode d'emploi.
Exactement. C'est un texte qui rappelle qu'un enfant, c'est une personne avec des droits bien à lui. Genre, droit à l'éducation, à la santé, à être protégé contre les méchants, les violents, etc. Et même droit de donner son avis.
Attends. Ça veut dire que si un enfant dit « Je veux pas manger tes épinards, maman, c'est une atteinte à mes droits fondamentaux », ça marche ?
Alors non, parce que la charte dit aussi qu'on doit veiller à leur bien-être, et visiblement les épinards en font partie. Désolé les enfants, faudra trouver une autre révolte.
Par contre, là où c'est vraiment sérieux, c'est pour protéger les enfants contre la violence, les violences, l'exploitation ou la pauvreté. Parce que oui, on est en Europe, mais il y a encore des situations où les droits des enfants sont bafoués. Et ça, c'est vraiment inacceptable.
Alors, on récapitule. Un enfant, c'est pas une décoration, c'est pas un mini-adulte, et c'est encore moins un assistant personnel gratuit. C'est un être humain avec des droits, et on doit les respecter.
Et oui, c'est pour ça que le sens même de l'éducation, c'est effectivement l'émancipation, dont l'étymologie du terme rappelle qu'il s'agit de s'extraire justement d'une autorité, à commencer par l'autorité paternelle. Mais hélas, il y a encore beaucoup de travail à faire autour de tout cela, quand on voit que ce qui domine encore, c'est justement notre système patriarcal et les dominations, hein, dans une certaine mesure, sont présentes à tous les niveaux de la société. Et bien évidemment, chez les enfants. Alors du coup, je me tourne vers toi maintenant, Nathalie. Comme je disais tout à l'heure, hein, tu étais une ancienne, enfin tu étais ancienne éducatrice spécialisée, donc désormais artiste peintre engagée dans l'art social et solidaire. Donc mes questions, elles vont être très larges. Tout d'abord, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours en tant qu'éducatrice spécialisée? Et du coup, quelle place accorde-t-on à l'enfant dans nos sociétés aujourd'hui?
Oh punaise, c'est une question très large quand même. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 1998. J'ai été formée au Sénégal, en partie, notamment pour l'enfance en conflit avec la loi et l'enfance en danger, notamment sur tous ses besoins primaires, hein, manger, boire, dormir. J'y ai longtemps travaillé. Et puis après, je suis venue en France. J'ai travaillé dans différentes structures, à Marseille, aux orphelins d'Auteuil. J'ai travaillé en maison d'enfants à Gap. J'ai travaillé, pareil, en maison d'enfants, en foyer, dans le Vercors. Et puis j'ai décidé de poser mes valises en Ardèche, où j'ai été dans la création d'un service, les services d'accompagnement progressif en milieu familial, et puis après des services d'accueil de jour. Voilà, donc à la fois travailler avec les familles pour essayer de maintenir l'enfant au domicile, à la fois travailler dans des foyers pour des enfants où le maintien à domicile n'a pas été possible, à la fois pour des jeunes, adolescents, jeunes majeurs, qui, suite à ce parcours d'aide sociale à l'enfance, parfois ont du mal à trouver leur place, et puis la sortie de ces dispositifs de protection de l'enfance. À 18 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Puisqu'à 18 ans, on est majeur. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pratique mon métier encore d'éducatrice spécialisée, très différemment, pas de façon du tout institutionnelle, mais du coup, plutôt sur la question de la prévention, sur la question de la sensibilisation, et sur la question de toucher le plus possible d'enfants et de leur dire qu'est-ce que c'est que le danger. Voilà. Qu'est-ce que c'est être en danger ?
Alors d'accord, tout à l'heure tu évoquais, parce que ça c'est quelque chose qui nous intéresse, parce qu'il me semble qu'on le rencontre de plus en plus par les temps qui courent, tu as évoqué le manque de besoins justement, enfin l'incapacité parfois à satisfaire les besoins des enfants. Est-ce que tu as rencontré beaucoup justement d'enfants qui étaient privés du strict nécessaire ? Et si oui, pour quelle raison, en fait ?
En fait, déjà, là, on parle souvent de maltraitance, mais dans la notion de danger et dans l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on rencontre le plus, c'est la négligence, qui, parfois, amène à un placement, et voilà. Donc, il y a la négligence et la maltraitance. C'est deux choses. La négligence amène à la maltraitance. Mais la négligence est souvent très invisible. Voilà, donc moi déjà dans un premier temps, c'est aujourd'hui ce que je déplore, c'est que on met parfois beaucoup de moyens sur le curatif et pas sur le préventif. Et quand un enfant, on se rend compte qu'un enfant est en danger, parfois c'est déjà trop tard.
Il faut quand même rappeler que l'urgence sociale n'épargne pas les enfants en France. En effet, un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, soit près de 3 millions d'enfants. 41% des enfants de familles monoparentales sont en situation de pauvreté. Et plus de 2000 enfants dorment dans la rue, dont 467 ont moins de 3 ans.
Donc. C'est pour ça qu'aujourd'hui... on revient vraiment à ces notions de danger qui sont autour des besoins primaires. Et c'est là où il y a la responsabilité publique, c'est de pouvoir nourrir, pouvoir héberger, offrir le strict nécessaire pour déjà survivre. Qu'on soit un enfant lambda, bien accompagné, ou qu'on soit un enfant maltraité, en danger, voilà. Parce que pour le coup, la question de l'hébergement et de l'alimentation, c'est deux choses quand même. On est sur du primaire et sur quelque chose de base. Et c'est vrai que vu qu'on est dans un pays occidental...
riche.
Voilà. On se dit qu'on n'a plus besoin de ramener à ces choses essentielles. Et moi, quand j'ai commencé à faire mes sensibilisations, je ramenais sur les besoins primaires d'un enfant qui vit de la rue au Sénégal, qui a été abandonné, qui cherche de quoi boire, manger, dormir, qui ne serait-ce que se faire désinfecter un bobo, c'est compliqué. Et puis finalement, quand on ramène à ici, eh bien, on a les mêmes problématiques, pour certains, et vous venez de le nommer, ou d'autres, où on dort mal, on mange mal, on boit mal, on n'est pas entendu, on n'est pas considéré. On nous amène des pathologies alors qu'il s'agit juste de négligence parfois, qui crée de l'anxiété. Voilà, on est une société aujourd'hui, je trouve, qui va pas très bien, voilà, par rapport à toutes ces questions. Et ramener à l'essentiel, aux besoins primaires, des fois, ça ne fait pas de mal.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est le moment aussi, d'ailleurs, de rappeler que les enfants sont de plus en plus nombreux à ne faire qu'un seul repas par jour, c'est celui de la cantine. D'où l'importance de, à la fois de le rendre accessible et de faire des menus précisément équilibrés, hein, pour pouvoir satisfaire les besoins de façon convenable.
Voire d'offrir la gratuité de la cantine. parce qu'il y a quand même des enfants, pour avoir connu des directrices et des directeurs d'école, qui prenaient sur eux d'offrir un repas gratuit à des enfants qui ne mangeaient pas chez eux, qui se contentaient d'un bout de pain le soir. Donc c'est vrai que la gratuité de la cantine devrait être mise sérieusement en réflexion pour que des enfants puissent survivre effectivement en satisfaisant des besoins essentiels.
Alors avant, on avait des tas de dispositifs en termes de prévention, hein, que ça soit dans les écoles, avec des infirmières, vous en parliez, que ça soit dans les quartiers où on avait des éducateurs de prêve, où on avait des animateurs sociaux. Voilà, on avait une politique qui était quand même très centrée sur la prévention. On pouvait avoir un regard, une écoute et une observation assez rapide. Derrière, il y avait quand même des moyens pour pouvoir y répondre. Là, aujourd'hui, on nous a enlevé la vue. On nous a enlevé l'ouïe. Ces enfants-là sont encore plus invisibles qu'avant. On les entend plus. Et en plus, quand on arrive à les voir ou à les entendre, eh ben, quand t'es travailleur sociaux, t'es hyper démuni parce que, en effet, on nous a enlevé aussi beaucoup, beaucoup de moyens. Ce qui fait qu'on se mord la queue et c'est traumatisant. C'est traumatisant pour tout le monde, en fait.
Oui, on retrouve d'ailleurs cette problématique qui finalement génère de plus en plus d'inégalités entre les enfants eux-mêmes. Eh bien, cette problématique-là, on la retrouve dans le système éducatif, puisque de plus en plus, il manque des moyens dans l'éducation nationale, tant d'un point de vue d'ailleurs de l'accueil, on va dire périscolaire, que scolaire tout court, avec justement la suppression massive de postes, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, et de postes de toute nature. Alors, en Ardèche, il me semble qu'à un moment donné, dans la discussion qu'on a eue, tu as évoqué le fait que tu avais porté la mise en place d'un dispositif.
Alors, j'étais embauchée pour créer un dispositif en 2006 qui sont des services d'accompagnement progressif en milieu familial. C'est-à-dire que quand un enfant est évalué en danger, donc jugé par le juge des enfants en danger dans sa famille, il y a plusieurs dispositifs possibles en termes d'orientation. Avant, on avait soit des aides éducatives à domicile, plus ou moins renforcées, plus ou moins légères, soit le placement, la séparation. Les placements se font dans différents types de placements. Pareil, ça peut être en famille d'accueil, en lieu de vie, ça peut être en foyer, maison d'enfants à caractère social. En 2006, ils ont, en Ardèche, sachant que ça se faisait ailleurs, hein, ils ont développé des services d'accompagnement progressif en milieu familial, c'est-à-dire que c'est des placements, donc c'est considéré comme un placement, mais en maintenant l'enfant à domicile. Alors au début, c'était vraiment dans une volonté de permettre à certaines situations d'éviter le danger du placement. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais pour certaines situations, on met sur la balance le moins pire. Pour des situations notamment de négligence, on sait qu'un placement, c'est violent, quel qu'il soit. On protège, parce que l'enfant, c'est très court. Donc c'est très court. Donc on doit agir vite. Ce petit temps d'enfance, il agit sur tout le reste de notre vie. Du coup, quand on doit protéger, on n'a pas 40 000 choix en termes d'évaluation et du coup en termes de solutions. Pour certains enfants, le placement était presque plus dangereux en termes de conséquences derrière la séparation que le maintien à la maison.
Ça pose quand même question, parce que on sait quand même qu'en France, les violences subies par les enfants à domicile chez eux et à l'école peuvent être très importantes. On a quand même 10% des enfants qui subissent des violences entre guillemets pseudo-éducatives, et un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Donc, ça ne doit pas être évident d'évaluer qu'est-ce qui vaut mieux pour l'enfant, finalement.
En fait, là, moi, je parle des enfants. Là, les enfants dont vous parlez, notamment ceux, c'est souvent des enfants, soit qui sont passés à travers les mailles du filet, c'est pour ça que je disais des fois, quand on voit que l'enfant est en danger, c'est presque trop tard. Et c'est là où je prône vraiment la prévention et tous les dispositifs de prévention qu'on pourrait mettre en place pour en effet déceler la maltraitance, parce que là vous parlez de violence, là vous parlez de violence et pas de négligence. Ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent placés par négligence. Parfois, la négligence, selon comment elle est évaluée, c'est difficile à trouver des solutions. On s'est rendu compte que pour certains enfants qui vivaient dans des négligences, la séparation, vivre avec d'autres enfants aussi carencés, aussi en grande difficulté, parfois on pouvait l'éviter. Parce qu'on est quand même au moins le pire. Et du coup, ils ont mis en place ces dispositifs où ça reste un placement, c'est-à-dire où il est nommé en effet que l'enfant est en danger, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on est sur des mesures d'intervention à domicile où on travaille vraiment avec les familles de façon accentuée. Alors, les choses ont évolué hein, entre 2006 et maintenant. 2006. Oui, ça fait un bruit. Ça a évolué. Ces dispositifs sont amenés à s'éteindre. Par contre, ils ont remplacé ça par des AEMO renforcés, puis maintenant des AEMO renforcés plus. Au début, où on devait être vraiment dans une intervention très de proximité auprès des familles, où on était une béquille, puis finalement, ça a été des solutions pour éviter des placements qui coûtent très cher. Là où, par contre, un placement aurait été nécessaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins de places. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de finances, donc il y a de moins en moins de foyers. Un enfant placé, c'est un enfant qui coûte très cher à l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, ils ont essayé à la fois de trouver aussi des dispositifs qui coûtent, on va dire, le moins cher possible pour... voilà. Ça, c'est des choses que moi, je me permets de dire parce que quand on le vit au quotidien, c'est quand même très, très, très difficile à vivre quand t'es éducateur. Ouais. Quand tu dois faire le choix entre rentrer à la maison ou avoir un dispositif d'aide. Fin...
Merci Nathalie pour ton intervention et tes échanges qui, hélas, étaient beaucoup trop courts pour épuiser la totalité du sujet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Drôles des Dames. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci.
La sortie est sèche, donc les joues seront mouillées. 18 ans à peine, les valises sur le bitume. La majorité devrait être un cap. Mais la case départ sonne à la porte. Le cœur n'est pas à la fête. Cadeau d'anniv, nouvelle rupture. De la S à SDF. Les lettres changent, pas les blessures. Difficile de construire sur des bases inexistantes. Le regard sur l'avenir, lui-même fracassé à l'avant.
À l'école de la vie, pas d'antisèche. On grandit dans la mer, couvent, tu sais. C'est pas la joie en ville, il pleut dehors. Et les enfants se mouillent en sortie sèche. Aucun échappatoire, tu passes le seuil. Le doute s'installe, t'as 16-17. Tu te crois entouré, tu te sens tout seul. Descends le sou, lueur d'espoir, descend du ciel. Enfant du monde, enfant du foyer. On pleure, on rit, à gorge déployée. Regarde la lune pendant ton voyage. Même la pénombre devient étoilée. La vie est un long fleuve tranquille, on se noie sans maître nageur. L'espoir comme l'ascenseur social, même sans contrat, jeune majeur. Avant frontières, t'ont pas les causes. Cette boîte ne rate pas le coche. Combien d'entre eux sont dans la fosse? Je parle de vécu, je te parle de gosse. Je te parle des mains, François Samir, Sonia Durel, Laura Dany. Je comprends pas de qui je te parle. De Dieu qui veut pour l'avenir.
Placer au plancher comme des pions, pions d'amis. Rêver papillis, il en faut du temps pour gagner. Placer au plancher comme des fous sur l'échiquier. Nos destins sont liés, il en faut du temps pour s'aimer. Placer au plancher comme des pions, pions d'amis.
Pas de ceux qu'on sombrait dans le texte. Grâce à Dieu, grâce au mien, j'ai su me relever quand je baissais la tête. Big baron pauvre, retard loyer. Mon père me frappe, je me retrouve au foyer. Rempli de stress, je voulais noyer. Enfance dure de la ville éloignée. J'ai toujours resté plein d'ambition. Qu'un seul but, accomplir ma mission. 18 puis je me retrouve loin de la maison. Rage en moi, mais je garde la raison. Soit je m'en sors, soit j'ouvre un réseau. Mais je veux pas me retrouver en prison. Qu'un seul but, accomplir ma mission. Que s'éclaircisse de sombre horizon.
Placer, replacer comme des pions sur un damier.
compliqué. Nos destins sont